Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Ce matin, nous allons parler archéologie et livres avec Sophie Marini pour nous parler d'un livre qui vient de sortir, qui est sorti le 13 décembre en librairie. Grec et libyen en cyrénaïque, c'est déjà un nom assez compliqué à prononcer à la radio dans l'Antiquité. Sophie Marini, bonjour.
Bonjour Marianne.
Bienvenue sur notre antenne, bienvenue chez nous. Je crois que c'est la première fois que vous venez chez Graphite.
Exactement, voilà, et encore merci beaucoup pour votre invitation.
Alors on a reçu une partie de votre ouvrage parce qu'il est vraiment très gros cet ouvrage. On parle assez brièvement de la région dont parle votre livre.
Exactement, alors il s'agit de la cyrénaïque. Qui est la province orientale de la Libye actuelle. Voilà, donc on est vraiment entre la Tripolitaine et l'Égypte.
C'est quoi comment est venue cette passion pour cette partie du monde ?
Alors, passion pour la Libye, parce que j'ai rejoint la mission archéologique française en Libye en 2001. Voilà. J'avais alors 19 ans et j'ai commencé à travailler là-bas, enfin, en tout cas à prendre part à plusieurs campagnes de fouilles archéologiques, et ce jusqu'en 2012. Alors évidemment, en 2011, on n'a pas pu y retourner à cause de la révolution libyenne. Mais voilà, donc jusqu'en 2012, j'ai travaillé en Libye et j'ai vraiment basé toutes mes recherches scientifiques sur cette partie du monde.
Là, en tant qu'archéologue, vous grattiez la terre ou c'est de l'archéologie plus dans les livres ou c'est quel type d'archéologie ?
Alors en fait, il y a vraiment les deux types d'archéologie en effet. Il y a vraiment les fouilles terrestres. Il y a eu également des fouilles sous-marines, parce que j'ai commencé par ça, voilà, faire de la plongée sur les sites archéologiques et notamment sur la ville d'Apollonia, qui est le port de Cyrène et qui est submergé à peu près aux deux tiers. Voilà, donc là, quand on fouille, enfin, en tout cas, l'archéologie sous-marine, c'est aussi vraiment une passion. Voilà, donc, et puis après, évidemment, il y a tout ce qui est recherche en bibliothèque. Voilà, et ça, ça prend énormément de temps.
Un bouquin de 410 pages et une partie de la thèse, il y a des parties qui ont été retirées du livre ?
Alors, il y a quelques parties, en effet, qui ont été retirées parce que, voilà, elles étaient peut-être moins pertinentes. Mais finalement, c'est vraiment une synthèse de la thèse.
C'est combien de temps d'écriture ? C'est plus de 5 ans d'écriture ?
Alors, la thèse, c'est 5 ans. Et puis ensuite, la reprise avec le travail à côté, ça a duré à peu près 5 ans également.
C'est quoi votre formation initiale en tant qu'archéologue ? Vous avez fait quel cursus ?
Alors, j'ai fait un cursus d'histoire.
Donc voilà. Un bac L, ensuite histoire, c'est ça ?
J'ai fait un bac ES,
d'accord, voilà. Okay.
Et puis ensuite, vraiment de l'histoire, histoire en général. Et puis je me suis vraiment spécialisée sur l'Antiquité en maîtrise et en master 2.
Là, c'est la période gréco-romaine, on va simplifier, c'est cette période-là à peu près ?
Exactement. Donc là, ça débute vraiment avec l'arrivée des Grecs en Libye, au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est à peu près 10 siècles d'histoire. Vous voyez, donc 10 ans de travail, 10 siècles d'histoire. Voilà, donc jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ.
C'est quoi la particularité de cette région du monde ? En termes de personnes, en termes de population, en termes de...
Alors cette région, donc la Cyrénaïque, c'est une région très, très attachante. C'est vrai que j'y ai passé plus de 10 ans, je me suis fait beaucoup d'amis là-bas. Donc d'ailleurs, je suis toujours en contact avec certains d'eux. Donc très attachante, beaucoup d'hospitalité, voilà, très chaleureuse. Un pays où il faisait bon vivre, voilà, très peu de mendiants dans les rues. Enfin, disons, il y a vraiment ce côté famille qui était aussi très important. Et puis, je pense aussi qu'il y a des traditions tribales très importantes en Libye qui montrent en effet que l'hospitalité est toujours très présente.
Et sur la période sur laquelle vous avez fait des recherches, c'était quoi, du coup, la vie sur place, du coup, à cette époque ? C'était quoi ? C'était des maisons en dur ? C'était des maisons, des constructions en pierre ? Parce que du coup, l'archéologie, ça peut être des constructions en bois, on peut voir des fondations, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous avez trouvé exactement ?
Alors, dans cette région, ce qui est, vraiment ce qui la caractérise, c'est le Djebel al-Ardar, qui est la montagne verte en arabe, et qui traverse complètement la Cyrénaïque de part et d'autre. Et donc, on retrouve en effet beaucoup de pierres. Donc, c'est vraiment de l'architecture monumentale, voilà, donc en pierre.
La religion, c'est quoi cette période-là, du coup, dans cette région du monde ? C'est une religion grecque, c'est une religion romaine, c'est une
religion. Voilà, donc c'est la religion grecque qui a vraiment primé, parce que finalement, donc les Grecs s'y sont installés donc au 7e siècle avant Jésus-Christ. Il y a eu ensuite, à l'époque romaine, une occupation par quelques garnisons romaines, mais finalement très peu nombreuses. Donc finalement, c'est vraiment la religion grecque qui a primé, donc c'est une religion polythéiste.
Du coup, c'est une population plutôt orientale ou une population plutôt tourné vers l'Occident à l'époque ?
Alors, tourné vers la Grèce, ça c'est clair. Voilà, parce que ce sont donc des Grecs originaires.
Donc, plus méditerranéens, quoi.
Tout à fait, oui, c'est ça. Donc, on est vraiment dans le monde Égée. Et c'est vrai que la Cyrénaïque, on la caractérise souvent comme une petite Grèce, parce que ça ressemble par le climat et aussi par le paysage à la Grèce.
Comment vous avez participé pour la première fois au premier champ de fouilles, à la première campagne de fouilles ? C'est passé comment ? On vous a dit, bon, bah, allez, il y a quelque chose à faire en Libye.
Alors, en fait, c'est assez marrant parce que j'étais en deuxième année, alors deuxième année d'histoire, et j'avais mon professeur d'histoire grecque, André Laronde, qui était le directeur de la mission archéologique française en Libye. Voilà, donc ça, je l'ai su qu'après. Et donc, au culot, ben, j'ai été le voir et je lui ai demandé, en effet, s'il avait de la place pour moi. Il m'a proposé une fois, et puis finalement, l'expérience s'est reproduite, voilà, parce que ça a bien fonctionné.
Donc c'est un peu le professeur qui a fait la rencontre, quoi.
Exactement, voilà, mais ça part toujours d'une rencontre, de toute manière.
C'est lui qui a fait votre préface dans le livre ?
Absolument pas, parce qu'il est décédé malheureusement en 2011.
Mémoire, le livre est à sa mémoire, c'est ça ?
Et c'est pour ça que le livre est à sa mémoire, c'était vraiment pour lui rendre hommage. Il est décédé en fait juste avant les événements, donc juste avant la révolution libyenne.
La personne qui a fait votre préface, c'est qui ?
C'est Jehan Desange, donc, qui est académicien et qui a été également membre de mon jury.
Comment on demande à quelqu'un de faire sa préface dans un livre ? On va le voir, on lui envoie un mail, comment ça se déroule ?
Ben, disons que j'avais des relations assez soutenues avec lui, parce qu'il m'a beaucoup aidée aussi pour l'écriture, en étant agrégée de grammaire. Et c'est vrai que moi, en ayant quelques soucis parfois de conjugaison, notamment au niveau des participes passés, c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidée.
Vous avez appris à parler en arabe ? Il parle aujourd'hui là-bas en Libye, ça parle arabe ?
Alors ça parle arabe, en effet. J'ai pris quelques cours d'arabe, mais finalement je suis très très mauvaise. Donc j'arrive à baragouiner quelques mots, mais voilà.
Surtout qu'il y a l'arabe littéraire, il y a l'arabe parlé, enfin il y a différents arabes aussi.
Et là-bas c'est vraiment un dialecte en plus, okay. Très spécifique à la région.
Comment ça se passe sur place ? Ça s'est passé comment, les campagnes de fouilles au quotidien ? Vous vivez dans quoi ? Dans une tente ? Vous vivez avec des autres archéologues ?
Alors non, on ne vivait pas dans une tente bédouine, mais en tout cas, on était dans une petite maison en dur qu'on louait au service des antiquités. Donc, service des antiquités, c'est le service archéologique là-bas de la province. Voilà, donc location d'une maison de fouilles. Donc, la maison de fouilles installée près du site archéologique d'Apollonia, donc Apollonia qui est le port de Cyrène.
Et il y a combien de personnes autour, en dehors des archéologues, l'équipe qui déblaye peut-être la terre ou ce genre de choses ?
Alors sur les équipes de fouilles, on pouvait être jusqu'à 20-25 personnes à peu près.
Donc là, c'est des locaux en fait qui travaillent sur place ?
Exactement, voilà. Et puis ça leur permet aussi de gagner un peu d'argent.
Il y a c'est quoi les moments quand on découvre quelque chose d'important ? Vous avez eu des périodes dans vos fouilles où là, c'était un petit peu la découverte exceptionnelle qui fait palpiter le cœur. Comment ça se déroule ?
Oui, alors ça, c'est vrai que c'est un peu le rêve de tout archéologue de tomber sur l'objet exceptionnel ou enfin, vraiment la découverte exceptionnelle. Après, on ne fouille pas forcément pour trouver pour trouver des trésors. On le fait plus pour arriver à comprendre l'urbanisation d'une cité, son histoire, son vécu.
Ouais, on trouve beaucoup plus des fondations que des objets finalement.
Exactement.
C'est quoi les objets qu'on retrouve ? C'est des céramiques, c'est des objets en bronze, en...
Voilà, donc des beaucoup de céramiques. Et ça, c'est vrai qu'en Libye, il y en avait vraiment particulièrement.
Du coup, c'est des céramiques grecques ? C'est des céramiques.
Alors de différentes époques finalement, parce que voilà, plus on descend et plus les céramiques vont être anciennes. Et donc ça part en effet de la période italienne, hein, parce que ça a été. La Libye a été une colonie italienne jusqu'en 1911. Donc voilà, et puis après, plus on descend et plus on trouve des objets anciens. Et les céramiques, en effet, nous permettent de dater finalement les stratigraphies.
C'est ça, en fait, qui permet vraiment de dater. Il n'y a pas d'autres objets qu'on peut...
Les monnaies également.
Les monnaies, ouais.
Les monnaies nous permettent aussi bien de dater. Et souvent, en effet, quand on les trouve dans un mur, par exemple, ça va nous permettre de dater des parements.
Ah, du coup, c'est des dépôts de monnaie ou c'est des pièces qui ont été perdues ?
C'est des pièces qui ont été perdues, ouais.
Okay. Là, sur les vases, c'est des vases grecs comme on peut voir un petit peu au musée Vivenel ou on imagine avec les beaux vases grecs, avec la couleur pourpre ?
Alors, en effet, c'est quand même très, très, très rare de trouver des vases entiers, déjà. Après, des vases de la qualité de ceux du musée Vivenel, c'est rare également, mais on en trouve beaucoup dans les zones de nécropole. Et là, parfois intactes.
C'était en offrande ?
C'était en offrande, exactement, oui, tout à fait.
Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un extrait de Manu Dibango. Il sera en concert le 15 janvier à l'Espace Jean Legendre à Compiègne. Ça commence à 20h30 et on écoute un titre qui est un petit peu le tube de Manu Dibango. Ça s'appelle Soul Makossa, c'est un peu le titre que tout le monde connaît. C'est pas sûr qu'il joue cet album-là le jour du concert à l'Espace Jean Legendre, puisqu'il y a un album qui vient de sortir qui est plus cubain, avec des rythmes afro-cubains. Tout de suite, on écoute donc Manu Dibango.
Thank you.
Manon Dibango, ça sera en concert le 15 janvier à 20h30 à l'espace Jean Legendre. Allez faire un tour sur la page de l'espace Jean Legendre pour voir s'il reste des places, mais c'est pas sûr, hein, mais allez-y quand même. En tout cas, très belle artiste qui sera présent dans le Compiénois. Toujours en compagnie de Sophie Marini pour nous parler de grec et libyen en cyrénaïque. Cyrénaïque, c'est comme ça que ça se prononce ?
Cyrénaïque. Ouais.
Dans l'Antiquité, c'est un livre qui est sorti le 13 décembre dernier dans les, chez les libraires. Et d'ailleurs, il y aura une conférence le 26 janvier aux bibliothèques Saint-Corneille ?
Exactement, Claude Saint-Corneille à 17h.
Ça sera, vous allez présenter quoi ? Ça va être la conférence, vous l'avez déjà préparée cette conférence ou c'est...
Non, là ça sera la première et c'est vrai que pour la première je voulais la faire à Compiègne, voilà, qui est ma ville de cœur. Une présentation de l'ouvrage suivie d'une table ronde aussi sur la préservation du patrimoine libyen.
Comment on arrive à un bouquin aussi détaillé, à le retransmettre et le simplifier pour un public lambda ? Vous avez parlé de quoi ? Vous avez parlé de la région ? Vous avez parlé de la période ? Vous avez parlé du livre ? Comment ça va se dérouler ?
Je vais essayer de faire au plus simple, en effet, en essayant de vulgariser un petit peu. L'idée aussi, c'est de transmettre des connaissances et puis les constats aussi que j'ai pu faire par ces recherches.
Là, ça se passe comment aujourd'hui en Libye ? Vous êtes parti avant la révolution syrienne, c'est ça ? Avant la révolution libyenne, pardon.
Libyenne, oui, ouais, c'est vrai. Je suis partie... en 2011, on a dû, en effet, mettre en stand-by la mission. On y est retourné une dernière fois en 2012.
Mettre en sécurité un petit peu les objets, ou c'était pourquoi
pour... C'était aussi pour poursuivre nos recherches. Et en effet, on ne pensait pas qu'ensuite, ça allait devenir très difficile pour nous d'y retourner. Le ministère des Affaires étrangères nous déconseille fortement d'y retourner. Bon, il y a des risques d'enlèvement.
Ouais, c'est ça, en fait.
Et c'est vrai qu'en 2012, c'était déjà un petit peu risqué. Parce que j'ai fait des prospections à ce moment-là et j'étais accompagnée par des militaires avec des kalachnikovs. Il fallait rentrer avant la tombée de la nuit. Donc on s'est fait quelques petites frayeurs, mais finalement ça s'est bien passé dans l'ensemble.
Et donc aujourd'hui, c'est quoi le climat là aujourd'hui ?
Le climat, c'est compliqué, hein. C'est plus une situation anarchique, hein, qui règne actuellement, avec deux provinces opposées. Donc d'un côté, on a la Tripolitaine avec le gouvernement d'Union nationale. Et puis de l'autre côté, on a le général Haftar, qui est donc le patron de l'armée nationale libyenne. Et en effet, tant que les deux provinces ne se rapprochent pas, ne s'entendent pas, on ne pourra pas avoir une mise en place d'une constitution, d'élections nationales également. Mais peut-être que tout ça passe aussi par une conférence nationale en Libye, vraiment sur ces thématiques-là.
Là, vous avez encore des contacts avec des Libyens ?
J'ai encore quelques contacts.
Via les réseaux sociaux ?
Exactement, par les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que les communications par voie postale sont impossibles. Par les réseaux sociaux, ou alors également, parce qu'il y a beaucoup de Cyrénéens, d'habitants de la Cyrénaïque qui vont aussi en Égypte, et donc par l'Égypte également.
Et comment ça se passe là actuellement ? La vie sur place est compliquée, il manque de quoi ? C'est de l'infrastructure, de la nourriture, de stabilité. C'est quoi le souci là aujourd'hui ?
Alors il manque déjà beaucoup d'argent pour les gens, en effet, les gens ne sont plus payés. Je parle en effet pour le service des antiquités. Donc ça bouge beaucoup, les directeurs sont changés plusieurs fois dans l'année. Et puis en effet, ils ne reçoivent plus de salaire. Ça devient vraiment compliqué. Après, il y a encore des attentats. Il y en a eu un il n'y a pas longtemps, revendiqué par l'État islamique. C'était le 25 décembre dernier au ministère des Affaires étrangères à Tripoli. Donc ça a fait quand même 3 morts. Divers petits attentats comme ça, des bombes qui explosent, etc.
Ouais, le but, c'est de créer la terreur, principe du
terrorisme.
Exactement,
oui.
Et aujourd'hui, sur les antiquités, c'est comment elles ont pu rester sur place pendant la Révolution ? Elles ont été dispersées, elles ont été volées, elles ont été protégées. C'est passé quoi sur les objets ?
Alors, en effet, y a beaucoup de trafic, en fait, trafic d'œuvres d'art, ça c'est clair. Donc, ça circule dans le monde entier.
Donc, c'est un moyen d'avoir de l'argent aussi pour, du coup...
Exactement. Et puis, certains l'ont bien compris. Voilà, donc ça circule. Donc, c'est pour ça que nous, on est très attentifs. Hein, la mission archéologique française en Libye est très attentive à ça. On surveille le marché de l'art, notamment tout ce qui est site, eBay, etc., Le Bon Coin, où on voit parfois défiler des choses. Les catalogues d'œuvres d'art également.
Et ça transite comment, du coup? Ça transite via l'Égypte? C'est quoi?
Via l'Égypte ou la Tunisie, ouais. Ouais.
C'est ça, ouais. En fait, c'est le schéma classique, comme pour les migrations, un petit peu. Quoi.
Exactement.
Et là, aujourd'hui, il y a des objets qui ont été retrouvés en Europe, chez des collectionneurs américains ou ce genre de choses. Vous avez... Comment ça se passe? Est-ce que vous faites une veille? Est-ce que vous avez encore le temps de faire une veille?
Alors,
sur ce marqueur?
Alors, il y a une veille, en effet, qui est faite. Et ça, donc là, on a le directeur de la mission, Vincent Michel, qui regarde cela de très près, avec également un doctorant, voilà, qui écrit souvent d'ailleurs des articles à ce sujet-là. Et en effet, dans les collections privées aussi, parfois, on peut retrouver des œuvres d'art qui viennent de Libye.
Là, vous travaillez actuellement à Marnier-Compiègne, c'est ça? Vous êtes embauché à Marnier?
Exactement.
Et du coup, vous avez toujours un œil sur ce qui se passe en Libye?
Tout à fait.
Toujours ouais. un petit... Si on vous rappelle demain, vous repartez en Libye ou vous restez dans le...
Ah bah je... Oui, je repars, ouais, ça c'est ouais. clair. Ouais.
C'est mmh. Qu'est-ce qui vous attire dans... C'est quoi? C'est la recherche? C'est le pays? C'est quoi? Ça aurait pu se faire dans une autre région du monde?
Bah, finalement, c'est les deux. Bah, c'est vrai que j'ai vraiment commencé mes recherches là-bas. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé, j'avais 19 ans, donc c'est vrai que ça marque. Voilà, et puis c'est vrai que je joue une véritable passion à ce pays et j'ai vraiment des liens très forts aussi avec ses habitants. Et comme je vous disais, j'ai encore beaucoup d'amis là-bas.
Le fait de comprendre l'histoire d'un pays, ça met plus de liens avec les habitants aujourd'hui, de connaître leur passé. Parce que je ne suis pas sûr qu'ils connaissent aussi bien leur passé.
Exactement.
Par exemple, nous, on ne connaît pas aussi bien notre passé que les archéologues. Est-ce que ça donne un lien particulier?
C'est vrai que ça donne un lien particulier. Et l'idée, c'est aussi de leur transmettre ce patrimoine. Enfin, vraiment, qu'ils se rendent compte du patrimoine, de la richesse qu'ils ont sous les pieds. C'est quand même assez exceptionnel. Et c'est vrai que c'est un pays où il n'y a pas eu beaucoup d'explorations archéologiques, finalement. Parce que les chercheurs se sont vraiment concentrés sur le noyau urbain des cités. Et finalement, la campagne environnante est très méconnue. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai fait pas mal de découvertes lors de mes prospections. On a découvert des gravures rupestres, voilà, qui remontaient à l'époque préhistorique. On a fait également une prospection pour le compte de Total Libye en Marmarie, qui est la région attenante à l'Égypte. Donc vraiment la partie orientale de la Cyrénaïque. Et là, on a découvert des mausolées, donc des tombeaux monumentaux qu'aucun explorateur n'avait découvert jusqu'à présent.
Et ça a été préservé par quoi? C'est le fait que c'était sous terre ou c'était préservé par... ça a été construit pour être préservé? Comment c'est arrivé jusqu'à nous?
Préserver parce que je pense que le climat a dû le préserver parce que c'est un climat très sec. Mmh. Et c'est vrai que la région de la Marmarie, en effet, là, on est vraiment dans une zone de subdésertique et finalement, les monuments sont très bien conservés.
L'archéologie sous-marine, c'est comment? Parce que là, on n'est pas avec une truelle et un pinceau, c'est des aspirateurs, c'est des crayons sur lesquels on peut écrire sous l'eau, ça se passe comment?
C'est un peu ça, c'est vrai. Donc, on a des soufflettes voilà, pour dégager les monuments. Et on a surtout des mètres, voilà, pour mesurer, parce que finalement, c'est vraiment ce qu'on fait.
C'est de l'architecture, quoi.
Exactement, ouais.
On arrive vraiment à voir sous l'eau que là, c'était une rue, là, il y avait un bâtiment, là, il y avait peut-être...
Bah, c'est vrai que ça, c'est assez incroyable, parce que le port d'Apollonia, qui est submergé pratiquement aux deux tiers, et c'est vrai que quand on plonge dessus, donc là, on est vraiment pas très profond, on est à 3-4 mètres sous l'eau, et c'est vrai qu'on nage au-dessus des ruines et des voies... des cales sèches, c'est vraiment très très bien préservé.
Il y a des navires? Est-ce qu'on trouve des bâtiments qui ont coulé?
Il y a quelques épaves, oui, en effet. Alors là, elles sont beaucoup plus profondes, hein. Il faut aller bien à 40 mètres de profondeur. Donc ça, je ne l'ai pas fait.
Du coup, vous avez appris à plonger?
Je plongeais déjà un peu avant, oui. Ouais.
Et ça se travaille comment, du coup, la plongée et l'archéologie? Parce que j'imagine qu'avec l'attirail, le matériel sur le dos, c'est pas aussi facile que d'évoluer sur la terre.
Bah, quand on est sous l'eau, en fait, ça pèse plus rien. Hein.
Donc, oui, c'est vrai. Ouais.
Voilà, donc c'est plus simple. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus fatigant que des fouilles terrestres, ça c'est clair.
Ouais, c'est moins de temps, on reste moins
voilà,
de temps sous
donc,
l'eau.
Donc disons, on va rester une heure en fait. On reste une heure, voilà, parce que sinon... C'est trop difficile.
Là, vous avez sorti votre, c'est votre premier livre que vous sortez ?
Exactement.
Est-ce qu'il y en a un autre qui est en préparation ? Est-ce que vous pensez...
Mais s'il me faut encore 10 ans, on verra. Voilà. Mais sinon, j'ai déjà fait paraître pas mal d'articles. Voilà, donc je vais continuer à écrire des articles.
Ça paraît dans quoi ? Dans des revues archéologiques ? Dans des revues scientifiques ?
Dans des revues scientifiques, ouais. Ça peut être assez varié, revues littéraires.
Qui sont lues par des chercheurs ou des...
C'est plus à destination du monde scientifique. Ouais, tout à fait.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie, quand vous étiez petite, de devenir archéologue ? Alors, c'est un peu... Le rêve de pas mal d'enfants. On pense à Indiana Jones ou à Lara Croft, ce genre de choses, alors que c'est pas du tout ça l'archéologie. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie ? Qu'est-ce qui vous a permis de pousser, d'arriver jusqu'à ce but ?
Oui, alors c'est vrai que c'est certainement le rêve de beaucoup d'entre nous. Alors moi, j'ai toujours été passionnée par la visite des musées quand j'étais petite. Après aussi ça fait aussi partie de la culture un peu familiale, je dirais, entre guillemets. C'est vrai que j'ai beaucoup voyagé étant petite, et ça m'a vraiment donné le goût au voyage.
Votre père est plutôt spécialiste du Moyen-Orient également, il s'y connaît assez bien au Moyen-Orient.
Exactement, et je pense que ça a dû jouer en effet, parce que j'ai toujours été plus attirée par les régions arides finalement, le désert,
que le nord de l'Europe avec le froid et la neige.
Et voilà, c'est ça, vous avez tout compris.
Ça va pour la Picardie, le temps est plutôt...
C'est vrai que c'est pas évident, mais bon, on s'y fait, hein, vous savez. Moi j'ai grandi ici, donc bon.
Votre sœur également travaille dans la culture, elle travaille du coup pour la mairie de Marseille.
Exactement.
Service culturel. Vous avez tous bercé dans l'environnement culturel familial ?
Et ben oui, c'est ça, il faut croire.
Quand on est petit chez les Marigny, qu'est-ce que papa et maman nous apprennent de culturel, à part les voyages ?
À part les voyages, bon, il y a beaucoup de choses.
C'est quoi, des livres à la maison,
C'est ça, ouais. Il y a des bibliothèques qui sont très fournies. On échange sur beaucoup de sujets, sur beaucoup d'auteurs. On va se raconter en effet le dernier livre qu'on a lu. Lorsqu'on berce en effet dans un environnement comme ça, c'est vrai que ça conduit parfois à des carrières, dans ces domaines.
Ça va, vos parents sont pas déçus?
Déçu de
travailler dans la culture, c'est pas forcément...
Non, au contraire, ils sont ravis, et puis en effet, tant qu'on est heureux, ils le sont également.
Comme votre père est dans la finance, il aurait pu se dire, bon, t'aurais pu reprendre la place dans la finance.
Oui, mais il aurait aimé être diplomate, voyez, donc comme quoi.
Ouais, donc comme quoi les voyages. Là, on va vous retrouver en conférence le 26 janvier à la salle aux Bibliothèques Saint-Corneille.
Exactement.
C'est quoi, il faut s'inscrire quelque part ?
Absolument pas. Non ? Voilà, donc il n'y a pas d'inscription, c'est libre, ouvert à tous, gratuit, donc tout le monde est bienvenu.
Là, la librairie des signes, il y a des exemplaires qui sont déjà disponibles, vous le savez, ou pas encore ?
Je ne pense pas encore, mais oui, ça serait bien de faire une mise en dépôt là-bas. Ouais.
Donc c'est disponible depuis le 13 décembre, il y a combien de... c'est quoi, c'est un tirage, l'éditeur en tire au fur et à mesure, c'est quoi, il y a un nombre de tirages dès le départ ? Comment ça se déroule sur ce genre de publication ?
Alors en effet, il y a un nombre de tirages dès le départ, c'est vrai que je n'ai pas le chiffre en tête, et après, s'il y a une forte demande, on peut rééditer.
Et là, vous pensez, c'est quoi le retour du public aujourd'hui ? Il y en a qui l'ont déjà commandé, qui l'ont déjà lu ?
Exactement, ouais, j'ai eu des retours comme ça. Alors après, ce sont aussi des passionnés, alors pas forcément dans ce domaine-là, mais en effet, j'ai plutôt des bons retours pour l'instant.
Ouais. Et ça va être traduit, du coup,
alors,
en langue
arabe ? J'espère, ouais. Alors ça, c'est vraiment une forte volonté de ma part, c'est que ça soit traduit en arabe pour que les Libyens puissent le lire.
Là, aujourd'hui, les objets qui sont en Libye, ils sont restés en Libye ou ils peuvent aussi venir en France ? Est-ce qu'il y a des systèmes d'échange pour que les fouilles archéologiques qui sont faites par, l'Institut français puisse venir
nous
visiter.
Malheureusement, non, malheureusement. Parce que je sais que les musées... Heureusement, finalement, parce que, en effet, les objets archéologiques ne doivent pas sortir du pays dans lequel ils ont été découverts.
Le plus compliqué, c'est les transports, c'est la sécurisation des transports, c'est pour ça, en fait.
Pas forcément. Oui, sécurisation des transports peut-être, mais ce sont des objets qui ont été découverts dans le pays, il faut qu'ils restent dans ce pays-là. Parfois, on peut avoir recours à des prélèvements seulement, si on veut dater au carbone 14, par exemple.
C'est envoyé en Europe, du coup.
En effet, on peut envoyer des prélèvements en Europe.
Là, aujourd'hui, le terrain de fouille sur lequel vous étiez, c'est dans quel état ? Vous avez des nouvelles de cette campagne ?
J'ai surtout fouillé donc à Apollonia. La ville antique est préservée parce qu'il y a une enceinte hein, autour du site archéologique. Mais à l'extérieur, c'est les zones de nécropole. Hein, et là, aujourd'hui, eh ben, c'est, on a une urbanisation excessive, évidemment, parce qu'il n'y a plus de gouvernement. Voilà, donc les gens s'approprient des terrains et donc ils construisent des maisons avec souvent des fondations un peu profondes. Et donc, ils explosent des tombes voilà, avec le matériel...
bulldozer, tractopelle.
Exactement, au bulldozer, au tracto. Donc, il y a vraiment de très gros dégâts.
Et là, sur, justement, sur tout à l'heure, on parlait de l'État islamique. Est-ce qu'il y a eu des destructions, d'objets d'art, d'objets archéologiques ?
Alors non.
En Libye, ça s'est bien passé ?
Exactement. Ouais, en Libye, ça s'est bien passé. C'est-à-dire que le patrimoine est méconnu, finalement. Okay. La richesse du patrimoine est méconnue. Et
c'est ce qui la sauve.
C'est ce qui l'a préservée, oui.
Ok. C'est quoi aujourd'hui l'œuvre d'art la plus connue pour un Européen de cette période-là et de cette région-là ? Est-ce qu'il y a quelque chose auquel on pourrait dire « Ah, mais bien sûr, ça, je l'ai déjà vu quelque part ?»
Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, bon, il y a beaucoup de très belles œuvres d'art. Il y a des très belles mosaïques. Après, je parlerai plus en termes de monuments. Le monument, je pense, le plus célèbre, ça va être le théâtre de Sabrata, avec un mur de Seine presque entièrement conservé. C'est un des plus beaux théâtres du nord de l'Afrique.
Et en région Picardie, est-ce qu'il y a des endroits qui vous font rêver ? On a Chanlieu qui est assez proche de nous, on a souvent des découvertes gallo-romains également, mérovingiens aussi. Est-ce qu'il y a des choses, vous renseignez un petit peu sur ce qui se passe dans le coin ?
Alors, je sais un peu ce qui se passe dans le coin. Alors, c'est vrai que le sanctuaire de Chanlieu, c'est un incontournable, ça c'est clair. Et c'est vrai que là, je parlerai aussi en termes de préservation du patrimoine. Voilà, ça serait bien de préserver un petit peu davantage ce site. C'est vrai que souvent, j'entends parler de personnes qui font des recherches illégales, voilà, avec des détecteurs à métaux. Donc, on fait des trous un peu partout dans les sites archéologiques.
Encore aujourd'hui ? Je pensais que c'était un peu...
Il y en a beaucoup encore aujourd'hui, ouais, chaque week-end d'ailleurs.
Je pense que c'était un petit peu passé. Et là, les découvertes récentes, il va y avoir le canal Seine-Nord qui va lancer des grandes campagnes de fouilles. Ça vous intéresse aussi ? C'est quelque chose qui vous intéresse ou plus vous êtes tournée vers le soleil ?
Alors, moi, c'est vrai que je suis plus tournée vers la Méditerranée, mais après, en effet, tout ce qui est archéologie m'intéresse. Donc oui, je vais suivre ça de près.
Là, sur cette période et sur cette partie du monde, est-ce que ça a influencé, nous, notre territoire, l'Europe ? Est-ce que j'imagine qu'il y a des synergies aussi bien du commerce que des migrations, ce genre de choses ? Est-ce qu'on retrouve des choses que vous avez pu retrouver là-bas, qu'on retrouve aujourd'hui soit en France ou peut-être dans le bassin méditerranéen ?
Alors, la Cyrénaïque, c'est vraiment une région à part. Et c'est vrai que ça a été tout l'objet de mes recherches, en tout cas sur cette thématique des relations entre les Grecs et les Libyens. Parce qu'il y a eu vraiment une osmose qui s'est instaurée entre les colons et les autochtones. Il y a eu des transferts culturels également. Et là, je pourrais également vous parler de sculptures qui sont tout à fait originales et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde grec. Ce sont des bustes aprosopes. Alors, ce qu'on appelle aprosopes, ça veut dire sans visage. Donc, des bustes d'une divinité funéraire qui était installée sur les tombes des nécropoles en Cyrénaïque. Et ces bustes, en effet, on ne les retrouve nulle part ailleurs. Donc, c'est vraiment un syncrétisme. C'est le fruit d'un syncrétisme entre les croyances des Libyens et les croyances religieuses des Grecs.
Ouais, c'est un peu comme on a fait avec, en France avec Calais-Noël, avec le solstice d'hiver ou ce genre de choses, quoi. C'est un peu utiliser les fêtes païennes pour les fêtes chrétiennes qu'on a pu avoir en Europe.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Là, on parle vraiment de syncrétisme. Et c'est vrai que dans mon livre, je parle beaucoup, en effet, de la religion. Enfin, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est là où on a énormément d'éléments sur les échanges qui ont pu s'opérer entre ces deux cultures.
On va refaire une courte pause musicale avec un titre de Lee Field et The Expression. C'est d'ailleurs un nouveau morceau. L'album sortira le 6 avril et juste après, on aura l'interview d'un des membres de Frustration. Il vient de Clermont et il sera en concert ce week-end dans le cadre d'un festival plutôt militant puisqu'ils veulent construire une maison de répit pour les immigrés, enfin plutôt pour les exilés. Et ça se déroulera à côté dans le Pas-de-Calais. Alors c'est à Grande-Synthe. Du coup, c'est dans le Nord-Pas-de-Calais plutôt. It rings blood. À l'instant sur les ondes de Graphite 94.9 dans la matinale. N'oubliez pas que cette émission est également réécoutable en podcast www.graphite.net et également on est disponible sur vos smartphones, sur vos TV, sur les Vobox, un petit peu partout. Et avant de rentrer encore dans le vif du sujet pour ce livre grec et libyen en cyrénéique dans l'Antiquité, donc écrit par Sophie Marini, je vais vous donner quelques dates, notamment une soirée à l'After Hours avec un warm-up pour le festival du Temps qui Fuzz de Number 4. Ça sera le vendredi 18 janvier. Et il y aura un DJ set avec Monsieur Mister Cool pour un Back to 60s, donc plutôt du rock 60s. Et il y aura de la soul avec Principle of Joy. Et tout ça, c'est à prix libre, vendredi 18 janvier à 20h. On aura le temps d'en reparler d'ici là. Mais voilà, si vous voulez noter dans vos tablettes. Sophie Marini, merci beaucoup d'être venue dans nos studios. C'est votre prochaine rencontre. On vous retrouve à la conférence du coup le 26 janvier aux bibliothèques. Je crois qu'il y aura également normalement peut-être une date à Marny-les-Compiègnes, la médiathèque de Marny.
Bah, j'espère bien, ouais, en effet, le maire m'a proposé. Donc,
c'est quoi ensuite la vie de ce livre? Comment ça va se dérouler? Vous allez faire des conférences? Vous allez être invité? C'est quoi la vie d'un livre du coup d'archéologie comme ça?
Oui, j'ai encore des conférences de prévues. J'en aurai une au mois de février à Amiens. J'espère aussi dans d'autres villes bientôt. Ensuite, ce qu'il faut en effet, c'est continuer à en parler, pour que ces recherches que j'ai menées en Libye pendant près de 10 ans tombent pas dans le néant, et vraiment avec une traduction du livre en arabe, ça serait vraiment une belle concrétisation.
Déjà souvent quand il y a un livre, c'est que ça tombe pas dans le néant, il y a quand même une trace. Voilà, il y a quand même 420 pages de traces, quoi.
Il y a une trace, mais ça reste écrit en français. Voilà.
Donc le but, ça, c'est la traduction.
Exactement.
Et comment ça se passe pour cette traduction? C'est quoi? C'est quelqu'un, du coup, c'est un éditeur qui va pouvoir vous le traduire?
Il faut que je trouve un traducteur.
C'est ça, ouais.
Ouais,
tout simplement.
Il faut que je trouve un traducteur et, moyennant un peu finance.
Et après, il faut pouvoir le diffuser, du coup, là-bas?
Exactement.
C'est plus compliqué après, du coup.
Oui, mais on a beaucoup d'amis libyens qui viennent souvent nous rendre visite en France. Donc,
Puis au pire, il y a Internet, si ce n'est pas une publication en physique, ça peut être une publication numérique. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans nos locaux. On va vous laisser repartir.
Merci à vous.
On rappelle la conférence le 26 janvier à la Bibliothèque Saint-Corneille à Compiègne. On se retrouve juste après ce morceau « Frustration Minimal Wife ». Avec nous pour vous parler de la soirée de ce week-end, on a Pat, un des membres de Frustration. Salut Pat.
Salut, ça va?
Bienvenue sur Graphite. Alors tu joues de la basse depuis 4-5 ans dans Frustration.
C'est ça, exactement.
Et tu es originaire de l'Oise, quoi, de Clermont.
De Clermont, exactement. Ouais, ma mère habite encore à Broglevers, donc c'est juste derrière la salle où on joue samedi. Là, je la connais bien parce que j'y ai joué mes deux premiers concerts de la vie dans les années 90, milieu 90.
C'était quoi à l'époque que tu jouais comme style de musique? C'était du punk rock?
C'était plus du hardcore. C'était plus du hardcore avec des gens, des potes de l'époque, dont le batteur, maintenant il est sur Amiens, il joue pas mal avec. Il joue à l'accueil froid souvent. Il y a d'autres potes qui sont là, et le chanteur, il est toujours à Bois Sec, je crois, d'ailleurs. On faisait du hardcore, un peu néo-métal, presque. C'était vraiment le début, hein. C'était le début de la musique pour nous, donc on n'avait pas toutes les connaissances.
Et tu faisais quoi? Tu faisais déjà de la basse ou tu faisais dans d'autres instruments?
J'étais bassiste, ouais. Moi, j'ai commencé bassiste, je suis bassiste historique. Donc j'ai commencé à la basse là-bas. Dans une des premières formations. Et d'ailleurs, je crois bien que c'était un festival qui s'appelle les Zycophonies, qui existe toujours.
Absolument, ouais.
Et il co-organise un peu la date de samedi, d'ailleurs.
C'est ça, ouais.
A priori. Donc, voilà.
Donc tu reviens aux origines un petit peu, là.
Là, c'est le retour. Le retour, c'est vraiment, ouais, c'est la première fois que je rejoue vraiment dans le coin, dans mon coin où j'ai grandi, quoi. À la limite, on a fait Creil et Amiens, mais Et là, c'est vraiment Clermont, quoi. La seule qu'on connaît bien.
Là, pour Frustration, il y a eu un album sorti en 2016, Empire of the Shame. Tu avais déjà joué, tu étais déjà dans le groupe à cette époque-là, en studio ?
Ouais, j'ai enregistré celui-là. C'est le premier album que j'ai fait avec eux. Avant, j'avais fait un 45 tours. Je suis arrivé, en fait, après la promo, les tours, pendant la tournée de l'album d'avant, qui s'appelait MTV Live, en 2013, je crois, ouais, comme ça.
C'est ça,
après,
2013.
Ouais. Puis, voilà. Après, on a enchaîné, on a enregistré Empire of Shame en 2016 ou en 2015, je sais plus.
2016, ouais, c'est ça, absolument, t'es bon dans les dates. Et je crois que là, Frustration, c'est en train de composer, d'enregistrer un nouvel album, si je dis pas de bêtises.
Bah là, ouais, on bosse, je sais pas si on a le droit de le dire, mais ouais, ça bosse pas mal en ce moment-là. Mais on a aussi un 45 tours sur le feu, là, qui va arriver de l'usine bientôt. Un nouveau 45 tours pour faire patienter les gens. Et ça devrait sortir, on l'aura pas samedi, je pense, mais bon, ça sort bientôt.
Et ça va être label à nous. C'est un nouveau morceau, ou c'est un morceau des albums précédents, ou c'est un album de l'album futur, c'est quoi ?
Alors ça, c'est le 45 qu'on sort, c'est un morceau qu'on joue, mais qui est sorti sur une compile anglaise, sur un label anglais. C'est le manager de Sleaford Mods, en fait, qui a sorti une compile avec plein de groupes, qui s'appelle Harbinger Sound. Et donc c'est un morceau qui est là-dessus, et nous, on a décidé de le remasteriser et d'enregistrer la phase B, c'est une reprise des Visitors, un groupe anglais. Et puis voilà, on a dit de leur donner notre vie à ce morceau, au-delà de cette compile, donc on a décidé de sortir un 45 avec une reprise en phase B. Voilà, ça arrive dans ce mois-ci, je crois.
Là, t'es le plus jeune du groupe en termes d'âge, est-ce que c'est pas trop compliqué de jouer avec des vieux ?
Alors, écoute, c'est plutôt... Non, ça va, c'est plutôt simple. Je dirais même que des fois, même c'est plus facile. Non, il n'y a pas de... Non, je ne me suis jamais posé la question. Je pense que dans ces milieux-là, l'âge, il ne compte pas vraiment.
Mais est-ce qu'ils vont se coucher après les concerts, ou est-ce qu'ils font également la fête ?
Alors ça dépend des fois. Je t'avouerais que souvent, je me couche tard, mais y en a qui suivent pas mal. Ouais. Ça suit pas mal quand même, il faut le dire. Ils sont assez fringants.
Et ben en tout cas, merci beaucoup, et on se donne rendez-vous donc samedi à Clermont pour cette soirée Pogo pour les exilés. Merci beaucoup, bon après-midi.
Et ben merci à toi, et à samedi, j'espère, tout le monde.
À samedi, salut.
Salut.
Samedi 12 janvier à Clermont-de-Loise, Pogo pour les exilés. Un concert de solidarité avec Kundaoula, Usé, Frustration, Magnetics et bien d'autres. Les fonds recueillis serviront à financer la création à Grande-Synthe d'une maison de répit pour les familles d'exilés. Pogo pour les exilés, samedi 12 janvier à partir de 19h, salle André Pommery à Clermont-de-Loise. Entrée 10, 15 ou 20 euros selon vos moyens. Une soirée organisée par le CAL Clermontois, Celebration Days Festival et le soutien de Bornbad Records. Retrouvez toutes les informations sur graphite.net.
Et voilà, ainsi se termine cette émission, cette matinale pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous lundi. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce matin. Et si vous voulez écouter cette émission, elle sera disponible sur internet www.graphite.net. On vous rappelle également que maintenant on est disponible sur Deezer, on est disponible sur vos smartphones, sur vos tablettes, un petit peu partout. Donc n'hésitez pas, si vous ne nous trouvez pas, à nous contacter pour nous donner les infos où on doit nous retrouver. Et puis on essaiera de faire en sorte d'être disponible. Bon après-midi, bon courage, et puis bon week-end. Et puis comme d'habitude, hein, soyez fous, sortez de chez vous.